Père Seigneur, c'est dans le nom de ton Fils Jésus-Christ qu'on est rassemblés. Puis je te remercie, Seigneur, de t'avoir révélé à chacun de nous, pour qu'on puisse te connaître, qu'on puisse connaître ta parole, qu'on puisse connaître ton plan pour nos vies, puis ta grâce merveilleuse que tu nous donnes en Jésus-Christ de pouvoir être pardonné de nos péchés et d'avoir la vie éternelle. Merci, Seigneur, de te révéler à chacun de nous pour la marche à suivre, pour garder notre communion avec toi. Merci de cette liberté que tu nous donnes d'être au Québec, de pouvoir pratiquer la foi, de vivre la foi sans obstruction. Puis je te demande pour nous de nous donner, d'utiliser ce temps de liberté-là qu'on a pour pouvoir propager ta parole encore pendant qu'on en le peut. Puis je te demande, Seigneur, de bénir les frères et sœurs qui sont dans des régions de persécution, puis ils perdent tout leur bien, leur job, leur famille. Tout est divisé, puis il y en a même qui perdent la vie. Je te demande de mettre ta main sur eux, Seigneur, puis de les fortifier, de les garder dans la foi, Seigneur, parce que c'est ça qui est le point. L'ennemi essaie de les détruire, puis de les faire renier la foi pour les faire adhérer à être musulmans ou à être d'autres choses. Seigneur, je te demande de les garder dans la foi, puis de leur donner la force, le courage, puis ta protection, Seigneur, pour ceux qui réussissent à quitter, de les guider, puis de leur donner en abondance ce qu'ils ont besoin. Je te demande de les bénir dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Puis je te demande, Seigneur, de bénir le temps de partage de ta parole, puis je te demande de nous instruire dans ta parole, de nous faire comprendre ce que tu veux nous montrer ce matin, qu'on sorte d'ici édifié et fortifié dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je veux remercier le Seigneur de cette liberté qu'on a. Ça, c'est sûr qu'il faut remercier Dieu puis d'en profiter de ce temps-là qu'on a de liberté pour pouvoir répandre la parole. Parce que la vis a commencé à être resserrée au gouvernement, et etc. Je vais en parler un peu plus tard, mais pas dans le message. Le point aujourd'hui, pourquoi qu'on est ici, pour quelle raison qu'on est ici? Il y a plusieurs raisons, hein? Oui. Louanger notre Dieu parce qu'on veut lui rendre un culte, on veut le célébrer, on veut le glorifier. Puis l'autre raison pourquoi qu'on est ici, être instruit dans sa parole parce qu'on va apprendre à connaître ce qu'il aime, ce qu'il aime pas. On veut ajuster notre vie de plus en plus conforme à ce qu'il nous a enseigné dans sa parole. Puis une autre raison pourquoi qu'on est ici, servir qui? Les frères et sœurs, on est là pour s'entraider, s'encourager, marcher ensemble, qu'on garde ensemble l'œil sur un, l'œil sur l'autre, qu'on marche ensemble, puis garder la foi, puis rester dans la foi jusqu'à la fin, peu importe ce qui arrivera.
On est ici parce qu'on obéit à Dieu.
Et aussi, on veut obéir à Dieu. Oui, c'est par obéissance qu'on est là, parce qu'on veut être fidèle à ce que Dieu nous demande. Fait qu'il y a un paquet de bonnes raisons, puis là... Parce qu'on l'aime aussi. Merci Seigneur. Puis on veut lui montrer qu'on l'aime. On va avoir les oreilles ouvertes, tout grandes ouvertes, pour comprendre ce qu'il y a à nous dire ce matin. C'est de même qu'on va pouvoir lui montrer qu'on l'aime aussi. Parce que des fois, on dit, oui Seigneur, je veux faire ce que tu me demandes. Puis pendant qu'il y en a un qui prêche, il pense au match de hockey, puis il pense à d'autres choses. Puis là, ça ne rentre pas. Il faut se concentrer, frères et sœurs. On a un petit peu de temps chaque semaine à donner à Dieu le dimanche, même si ça dure 2 heures. Dans toute une semaine, il y en a combien d'heures dans une semaine? Qu'on consacre 2 heures le dimanche, puis un petit 1h30 le mercredi, c'est pas la fin du monde. Mais c'est notre bénédiction. On reçoit des bénédictions de Dieu dans tout ça. On est en train de faire une petite étude, on continue la petite étude sur les 10 commandements de Dieu. Juste pour faire une petite intro vite, on pratique pas les 10 commandements dans le but de gagner notre ciel. Ça, c'est la première chose qu'il faut bien comprendre. Dans l'Ancien Testament, c'est de même. Mais aujourd'hui, dans le Nouveau, on veut pratiquer les 10 commandements parce que Dieu, il prend plaisir de voir quelqu'un qui applique à obéir à sa parole, à ses commandements. Par là, nous lui démontrons, premièrement, qu'on l'aime. Deuxièmement, qu'on veut garder le contact avec. Parce que lorsqu'on désobéit, on attriste le Saint-Esprit. Puis, veut pas, on perd le contact. Puis ce contact-là qu'on a avec Dieu, c'est en demeurant dans sa parole qu'on demeure en lui, puis lui en nous. Puis il est important qu'on apprenne à connaître ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. Pourquoi je veux le savoir? Parce que je veux mettre en pratique ce qu'il aime, puis je vais arrêter de pratiquer ce qu'il aime pas. C'est pour cela que les 10 commandements étaient comme 10 grandes règles. C'était une règle pour gagner notre ciel avant, mais aujourd'hui, c'est des règles réexpliquées par Jésus puis par les apôtres, dans le but d'avoir un mode de vie comme on soit un peuple séparé des autres nations qui sont en train d'obéir aux règles de leur Dieu, par amour. Amen. Le troisième commandement de Dieu, parce que nous sommes rendus au troisième, s'il y en a qui ont manqué les premiers, vous pouvez aller sur le site internet, publicationévangélique.com, vous avez même les feuilles avec lesquelles je me sers pour prêcher le message, puis vous avez l'enregistrement audio, allez-y, réécoutez, ça fait du bien. Moi, je me réécoute, puis je me réédifie moi-même. Oui, je m'édifie moi-même en réécoutant mes prêches. Le troisième commandement, c'est encore un commandement qui s'adresse face à Dieu, parce que le premier dit « tu n'auras pas d'autre Dieu », ça veut dire « c'est pour pas remplacer Dieu ». Le deuxième, c'était de pas se faire d'images taillées, des représentations, des statues, des photos pour se représenter Dieu, parce qu'il n'y a rien sur la terre qui peut vraiment représenter Dieu. Le troisième commandement de Dieu qu'on va voir aujourd'hui, il nous interdit de prendre son nom en vain. Et vous allez comprendre en regardant les versets que son nom est grand. Il n'y a rien de plus grand que le nom de Dieu. Le troisième commandement dans Exode 27, il nous dit, « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prend son nom en vain. » Le troisième commandement, c'est un rappel de l'immense privilège qui nous est donné dans la connaissance du nom de Dieu. C'est un privilège de connaître son nom. C'est un privilège de pas le prendre à la légère puis de le maltraiter. C'est un privilège qu'il nous a donné de connaître son nom parce qu'il y a beaucoup de monde qui connaissent pas Dieu du tout. Non seulement qu'ils le connaissent pas dans une relation personnelle, ils ont pas de connexion avec, mais ils connaissent même pas sous son vrai nom. Moi, je pense que le minimum dans une relation avec quelqu'un, c'est au moins tu connaisses son prénom, puis là, tu peux l'appeler par son prénom. Déjà, ça établit que tu le connais un petit peu. Ben, c'est un peu ça, parce que jusqu'au temps où ce que Dieu révèle son nom, personne ne le connaissait par son nom. Il savait qu'il était là, mais il n'y avait pas quand deux personnes apprennent à se connaître, il y a comme une relation qui est plus intime parce que tu apprends plus sur l'autre. C'est un peu ça qui est l'idée. Dieu s'est choisi un peuple pour pouvoir porter son nom. C'est ça qui est le beau de l'histoire. Dieu, non seulement, il a révélé son nom aux créatures pour que ce peuple-là qui a été choisi était choyé de pouvoir connaître le nom du vrai Dieu, créateur de toutes choses. On voit ça dans Actes 15-14, j'en ai parlé un peu mercredi, que Dieu il a jeté les regards sur les nations puis se choisir au milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Et quel est le peuple qui a été choisi? Le peuple juif. C'est le peuple juif, les descendants d'Abraham, Isaac, Jacob. Jacob a eu 12 fils. Ces 12 fils-là, c'est devenu les 12 tribus d'Israël. Le peuple juif. Puis à cause des promesses que Dieu a faites à Abraham, qui était pour bénir sa descendance, qu'elle soit aussi nombreuse que le sable de la mer, puis que Dieu était pour choisir ce peuple-là, puis les bénir, puis de faire en sorte que ce peuple-là puisse porter son nom. C'est pareil comme une compagnie. Quelqu'un qui s'en va travailler pour une compagnie, puis il est le représentant sur la route. Fait que veut pas, il porte le nom de la compagnie. Il se présente ailleurs pour vendre ses produits. Bonjour, je suis Daniel des produits Avon. Là, c'est un exemple. Puis là, on veut vendre des produits, mais on est dans le nom de la compagnie quand on se présente. Mais le peuple juif marchait sur la terre comme étant le peuple de Dieu. Il marchait, il portait son nom. Fait qu'à chaque fois que le peuple juif ouvrait la bouche, il ouvrait la bouche pour parler des choses de Dieu. C'est ce qu'il serait supposé de faire. Pour être un bon représentant de Dieu, il faut que tu sois capable de pouvoir expliquer les vraies choses de Dieu. C'est à leur rôle d'être les représentants de Dieu sur cette terre. Ils portaient son nom. Autant que c'est un privilège de porter le nom de ce grand Dieu-là, créateur de toutes choses, mais en même temps, c'est une grande responsabilité, parce que tu ne pouvais pas prendre son nom à la légère, puis faire comme si ça ne serait pas sérieux l'affaire, puis commencer à vivre tout croche, qui entraînerait des répercussions que son nom serait sali, voyez-vous? L'importance de porter le nom de Dieu. Fait que, dans Exode 3, 15, quand que Moïse a eu la révélation du nom, il dit, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel. Le mot qui est là, c'est YHWH, parce qu'il n'y avait pas de voyelle. C'est à Yahweh qui veut dire, je suis celui qui est l'Éternel. Ça a été traduit en français par l'Éternel. Mais ça se prononce Yahweh dans les syllabes hébreux. On prononcera ça Yahweh, ces quatre lettres-là. Mais son vrai nom, son sens, c'est le verbe être au présent. Je suis. Comme si, en tout moment, en toute éternité, Dieu, il dit je suis. Il est toujours là. C'est ça son nom qu'il a révélé au peuple juif. Il dit l'Éternel. C'était traduit en français dans notre Bible par l'Éternel. Le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Fait que là, le peuple juif, il marchait dans le nom de Yahweh. Il marchait dans le nom de l'Éternel. Il était les représentants de l'Éternel sur la terre. Fait que chaque chose qu'il devait dire ou faire avait une grande importance parce que tu portais le nom de Dieu, tu es un représentant de Dieu. Fait que le Dieu avait accordé à Israël un privilège extraordinaire. Il leur avait révélé son nom personnellement. Il leur avait dit, « Salut Moïse, je m'appelle Je suis. » Il a dit personnellement son nom, il s'est présenté avec son nom. Puis le nom est représenté en hébreu par quatre lettres, c'est YHWH, puis ça a été traduit de différentes façons en français, mais la prononciation c'est Yahweh, il y en a quand ils disent c'est Jéhovah, mais ça, c'est pas Jéhovah parce que la prononciation J existait même pas. C'est rien que depuis 400 ans que la prononciation J existe. Ça serait Jéhovah, mais c'était plus Yahweh, qui était la vraie prononciation. Mais pour nous, dans la Bible, c'est l'Éternel ou le Seigneur. Ça dépend du verset. C'était traduit de différentes façons. Mais quand tu parles de son nom propre, il y a aussi ses titres qu'on connaît. Il l'appelait Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, Jacob. Fait que Dieu, c'est encore quelque chose qui s'adresse à lui. Seigneur, Dieu, le Tout-Puissant. Ou, tu sais, il y a le... Bien, on va le voir ensuite, il y a d'autres choses qui nous révèlent un peu, apprendre à le connaître par ses titres, parce qu'en fin de compte, son nom, c'est un titre. Je suis, c'est quand même si c'est il est, c'est le verbe être, c'est le nom qu'il a voulu révéler. On peut pas dire que sa mère ou que son père l'ont baptisé de telle manière, parce que Dieu, il n'y a pas de commencement. Fait qu'il a toujours existé, mais il a porté le nom qu'il voulait se révéler. Puis la connaissance du nom divin, le nom de Dieu, c'est un privilège, comme je vous disais, parce qu'il signifie le fait qu'Israël n'a pas reçu le culte d'une divinité anonyme ou lointaine, mais un être dont le nom était connu et personnel. C'est une communion avec un Dieu personnel. C'est ce Dieu-là qu'on veut comprendre, apprendre à connaître aujourd'hui, parce que le commandement, il dit, prends pas son nom en vain. On va voir dans tout cela la portée de tout cela. Mais le peuple juif, dans le cours de l'histoire de leur vie, ils ont reçu des messages par les prophètes, parce qu'il y a beaucoup de prophètes qui ont parlé au peuple juif pour leur dire des choses de la part de Dieu. Puis là, j'en donne 5 vitement, mais c'est des paroles prononcées par des prophètes pour dire quoi faire avec le nom de Dieu. Comme un exemple, le psaume 29:2, ça dit « Rendez à l'Éternel gloire pour son nom ». Là, ça dit « Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés ». Un autre verset dans le psaume 34:3, ça dit « Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom ». Un autre passage en psaume 108.4, ça dit « Chantez à Dieu, célébrez son nom ». Un autre passage en psaume 112.17, il dit « Son nom subsiste à toujours, aussi longtemps que le soleil, son nom se perpétuera. OK. Il se perpétuera. Psaume 96.2, « Chantez à l'Éternel, bénissez son nom ». Psaume 105.1, « Louez l'Éternel, invoquez son nom. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. » Voyez-vous, j'en ai pris juste 5-6, là. Mais tu regardes, quand tu fais recherche, son nom dans le Bible Online, il sort une liste, là. Il y en a plein de déclarations faites par des prophètes, ou même par Moïse, ou par d'autres hommes de Dieu, qui ont ramené des idées précises à faire avec comment utiliser le nom de Dieu. Puis il y a d'autres versets qui vont vous dire « Son nom est saint », puis etc. Il y en a plein. Mais tout ça pour nous dire que quand tu prononces le nom de Dieu, il faut que ça soit dans le but de l'élever. Ça dit « Célébrons tous son nom, célébrez son nom, son nom subsiste à toujours, bénissez son nom, invoquez son nom, rendez gloire pour son nom ». C'est toujours dans le but, « Hey, c'est quelque chose, on a le nom de Dieu sur nous. » Puis là, quand on parle de Dieu, il faut l'élever. C'est de même que les prophètes parlaient. Il faut élever son nom, puis l'élever. Il faut pas prendre ça en vain. Il faut élever son nom, faire connaître sa grandeur, puis même publier son nom, proclamer son nom, parler de son nom. Mais malheureusement, j'en ai parlé un peu mercredi, en vivant d'une manière contraire à la loi, ça l'a amené un déshonneur sur Dieu. Le peuple qui devait le représenter, parfois, c'était pas juste des petites désobéissances légères. Il changeait carrément Dieu par bout. Il allait se prosterner devant des idoles, puis il allait servir et prier, puis faire des hauts lieux, des lieux de faire offrir des sacrifices à d'autres dieux. Ils ont grandement offensé ce Dieu-là. C'est un Dieu-là qui aurait dû l'élever puis le garder précieusement, parce qu'il était les représentants de ce Dieu-là. Puis à cause de cela, ça nous dit, comme dans Romains 2, 23, 24, ça nous dit, il parle à des Juifs qui déshonorent Dieu par la transgression de la loi. Il dit, « Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens. » Autant que le peuple juif, il devait porter le nom de Dieu, puis l'élever, mais dans leur manière de vivre, a fait en sorte que les païens blasphémaient le nom de Dieu. Quand les Juifs, mettons, dans leur mode de vie, qui était hautain, orgueilleux, puis traitaient les païens, les gens du monde qui connaissaient pas Dieu, au lieu d'essayer de les convaincre, puis d'essayer de les amener à la foi, puis d'aller les amener à glorifier Dieu, il y avait un comportement hautain, puis c'est des chiens, en parlant des païens, ils se voyaient comme en orgueil, puis ils repoussaient, puis s'ils touchaient à quelqu'un, ils se lavaient les mains, parce qu'ils voulaient montrer qu'eux autres l'ont, puis eux autres l'ont pas. Qu'est-ce que ça a fait avec leur mode de vie, puis leur manière? Ils ont-ils attiré des gens à croire et à bénir ce Dieu-là? Pas du tout. Ça a amené les gens à blasphémer le nom. Eux autres, ils devaient être les ceux qui propageaient le nom de Dieu. Ça a plutôt fait le contraire. Quand ils étaient rebelles à Dieu puis qu'ils vivaient en orgueil en face aux autres, ça a amené le monde à blasphémer le nom de Dieu. Puis dans un autre passage, ça nous dit que Jésus lui-même qui a dit ça aux Juifs, il dit « Le royaume de Dieu va vous être enlevé puis va être confié à une nation qui va porter du fruit. » Jésus a parlé aux Juifs, lui a dit, « Le royaume de Dieu va vous être enlevé, puis il va être donné à une nation qui va porter du fruit. » C'est qui cette nation-là qui porte du fruit? C'est nous autres. Ceux qui ont eu la grâce de connaître le nom de Dieu, parce qu'il est révélé par Jésus-Christ, ça nous a donné un accès à pouvoir devenir ce nouveau peuple de Dieu-là. Puis là, maintenant, on porte son nom, puis c'est nous qui sommes ses représentants, puis c'est nous qui avons la responsabilité de marcher d'une manière qui est agréable à Dieu parce qu'on porte son nom. Dieu nous l'a donné, son nom, nous l'a révélé. Puis c'était même le but premier pourquoi que Jésus est venu ici sur cette terre. Le but premier. Ça nous dit, s'est révélé par un prophète, quelle serait la préoccupation du Messie. Ça nous en parle dans Hébreux 2:12. Lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée », le but du Messie étant « J'annoncerai ton nom à mes frères ». Qu'est-ce que ça veut dire, ça? « J'annoncerai ton nom à mes frères ». Jésus qui dit ça, « J'annoncerai ton nom à mes frères ». Il parle à Dieu son Père. Le mot « j'annoncerai » dans le grec, ça veut dire « faire savoir, raconter, rapporter, annoncer, porter la nouvelle, dire, informer, répandre, déclarer, faire un rapport, avertir, prêcher, publier ». Fait que Jésus, là, quand il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je vais le publier, ton nom, Seigneur, parmi mes frères. » Ça veut dire, si on examine ça, en étant enfant de Dieu, tu donnes ta vie au Seigneur, tu es pardonné de tes péchés, tu reçois le Saint-Esprit, Jésus rentre en toi, puis son rôle en toi, c'est d'annoncer le nom de Dieu au milieu des frères. Fait qu'il est en nous, puis là, à chaque fois qu'on rouvre la bouche, puis qu'on proclame le nom de Dieu, on est en train d'accomplir cette prophétie-là qui est écrite dans l'Ancien Testament. On est en train d'être les porte-paroles de ce Dieu-là. C'est Jésus qui parle à travers de nous pour nous faire proclamer, annoncer, même dans l'évangélisation, ou même par les chants, quand on est concentré et qu'on chante les chants, puis ça nous dit « Gloire à ton nom, Jésus », quand on chante ça, mettons, on est en train de glorifier Dieu par notre bouche, puis on est en train d'élever le nom de Dieu. On est en train de le célébrer, on est en train de le bénir. Tous les chants, c'est des beaux chants qui nous amènent à penser à ce Dieu-là, puis le Saint-Esprit, à travers de nous, proclame son nom à travers notre bouche. C'est quelque chose d'extraordinaire, ce privilège-là qu'on a aujourd'hui, non seulement de le connaître, mais de pouvoir parler en son nom pour que les autres qui viennent, ça arrive qu'il y a d'autres, il y a des gens, des nouveaux qui viennent, puis ils viennent pour écouter le message, puis là, ils sont étonnés d'entendre le nom de Dieu, le nom de Jésus, ils entendent ça, là, plein par plusieurs personnes qui professent ces choses, puis c'est dans le plan de Dieu que ça se passe comme ça. Pardon? Oui. Le véritable nom de Dieu a été révélé par Jésus. Parce que la révélation dans l'Ancien Testament n'était pas complète. C'était une partie de la révélation. Vous allez comprendre pourquoi. Tout se passe dans le nom de notre Dieu. Dans Jean 17, 3. Ça vaut la peine que tout le monde lise ce passage-là pour qu'on l'ait gravé dans notre esprit. Là, parce que Dieu dit, j'écrirai mes paroles dans leur cœur puis dans leur esprit. Fait que là, c'est là. Jean 17, 3. Or, la vie éternelle, c'est pas des farces. Le salut de Dieu, la vie éternelle, c'est ce qui est le message central de la vie, du Nouveau Testament, c'est de donner la vie éternelle. Qui va avoir la vie éternelle? C'est rien que normal que tout le monde veut vivre éternellement. On peut pas empêcher ça, qu'une personne ait l'espoir de dire « Je m'en vais au ciel, je m'en vais au paradis, je m'en vais dans la vie éternelle. » C'est rien que normal. Moi aussi, je veux y aller. Gloire à Dieu. « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. » Ça, c'est en parenthèse. « Père. » Parce que deux versets avant, Jésus, quand il commence sa prière, il dit « Père ». Fait qu'il a appelé Dieu « Père ». C'était pas des choses qui étaient communes dans ce temps-là. Là, la phrase s'arrête pas à Dieu le Père. Il dit « C'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, Yeshua Yamashia ». Quand on parle de la révélation de Dieu, elle n'était pas complète dans l'Ancien, parce que les gens croyaient qu'il y avait un seul Dieu. Puis ça, c'est vrai qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Mais ils ne connaissaient pas en détail comment ce qui était composé, ce Dieu-là? Ça prenait une révélation additionnelle qui est donnée dans le Nouveau Testament. C'est qui nous a permis de connaître ça? C'est Jésus-Christ, puis le Saint-Esprit à travers les apôtres, les enseignements qui nous ont été donnés dans le Nouveau Testament. Ça nous révèle que le Dieu qui était là dans le buisson ardent, c'était Dieu le Père qui était là, et son Fils Jésus-Christ. Parce que en Dieu, en un seul Dieu, il est composé de trois êtres distincts. Mais là, dans ce verset-là, nous en présente deux. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Tu peux pas séparer ce verset-là. Si le gars il dit, moi, je crois au Dieu, mais je crois pas en Jésus, c'est bien de valeur, tu passes à côté. La révélation de ce Dieu-là nous enseigne que Jésus lui-même, qui est Dieu aussi, lui, on fera pas l'étude pour déclarer sur quel verset qu'on se base, mais on va le faire un jour si Dieu le permet. Mais il y a des versets qui nous disent que Jésus est Dieu, comme Dieu le Père est Dieu, et comme le Saint-Esprit est Dieu. Puis, Jésus, quand il a dit, je suis le chemin, la vérité, et la vie, c'est Jésus qui prononce ça, il dit ensuite, « Nul ne vient au Père que par moi. » Il y a d'autres versets qui disent, « Un seul Dieu et un seul médiateur en Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. » Jésus, pour comprendre un peu plus profond, était en Dieu, ça nous dit dans des versets, que par lui toutes choses ont été créées, puis rien de ce qui a été fait n'a été fait sans Jésus. C'est écrit dans Jean au chapitre 1, verset 1 à 3 ou 4. Puis là, après ça, ça nous dit que Jésus est issu du Père. Il était en forme divine avant, puis il a créé les choses, il était en forme de Dieu. Puis là, il a décidé de quitter son état d'omniprésence, d'omniscience, de toute puissance. Il a quitté ça pour devenir, s'incarner dans une forme humaine comme nous, pour marcher sur cette terre pendant ces 33 années environ qu'il a marché sur cette terre. C'était le Créateur qui est sorti de lui-même, puis qui est rentré ici. Fait que quand il était sur la terre pendant ces 30 et quelques années, il pouvait parler à son Père en haut, puis lui était en bas. Mais avant, il parlait à son Père en haut, puis il était un en haut. Mais il a quitté cela pour venir pendant un peu de temps sur la terre. Fait que quand on parle du nom de Dieu, on parle de Dieu le Père, puis on parle aussi de Jésus-Christ. La révélation du Nouveau Testament, c'est que tu peux pas avoir le Père sans avoir le Fils. Si tu nies le Fils, tu n'as pas le Père. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il est important d'avoir la connaissance de Dieu le Père, puis la connaissance de Jésus-Christ. Parce que sans la connaissance de Jésus-Christ et d'accepter qui qu'il est, tu peux pas recevoir le Père. Fait que là, j'ai fait un résumé bien vite. C'était juste pour vous faire comprendre que le nom de Dieu qui nous donne la vie éternelle, c'est Dieu le Père et Jésus-Christ, Yeshua. Son vrai nom, c'était Yeshua en araméen. C'était traduit en français par Jésus. Jésus le Christ ou Yeshua le Messie. En araméen, c'est Yeshua Yamashia. Bon. Son but à Jésus, c'est de nous faire connaître son Père et nous rappeler son nom. Parce qu'il est important, quand tu as reçu le cadeau de Dieu, la vie éternelle, etc., il est important que tu gardes jusqu'à la fin cette révélation-là. Il fallait que tu l'entendes, puis que Dieu te garde aussi à t'en rappeler. Dans Jean 17, 25, ça nous dit, « Père juste, le monde t'a point connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. » Ça parlait des disciples. « Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître. » Voyez-vous? Il dit, je leur ai fait connaître et je leur ferai connaître. C'est qu'il y a une continuité dans la connaissance du nom de Dieu. Faut que tu demeures là-dedans. Faut pas que tu oublies ça. Afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Jésus aussi est en nous dans ce verset-là. Oui. Fait qu'il est important que son nom, le nom de Dieu, on l'oublie pas. Puis c'est le travail du Saint-Esprit aujourd'hui de nous le rappeler. Jésus aussi nous enseignait de façon à ce qu'on respecte et qu'on élève le nom de Dieu. Où est-ce qu'il nous a montré ça? Dans Matthieu 6:9, dans la prière du Notre Père. Quand il a dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, que ton nom soit sanctifié? Sanctifié veut dire saint. Ça veut dire que ton... Puis le mot saint veut dire sacré. Fait que, Père, que ton nom soit sacré, que ton nom soit saint. Autrement dit, que les nations reconnaissent que tu es le sacré. Et l'ensemble de la planète, c'est les profanes. Il y a un être sacré, c'est son nom, c'est l'Éternel, Yahweh, révélé dans le Nouveau Testament, le Père, Jésus-Christ, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. C'est l'Esprit sacré, c'est l'Esprit de Dieu. Quand on élève le nom de notre Créateur, que ton nom soit sanctifié, c'est nous qui doit prier cela pour que Dieu continue son œuvre pour amener des gens, d'autres âmes, à s'humilier, à demander pardon pour leur rébellion, puis à commencer à élever le nom de ce Dieu-là, qui est le Dieu de la Bible. Gloire à Dieu. Puis là, un peu plus loin, dans Jean 17, 11, Jésus a prié le Père de nous garder dans son nom. Il dit, « Je suis plus dans le monde, mais ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, il l'appelle Saint, sacré, garde en ton nom ce que tu m'as donné. Garde en ton nom. » Ça veut dire qu'il est important que les chrétiens gardent précieusement le nom de Dieu. Pas juste le garder, dire « Je me souviens que ça s'appelle Père puis Jésus-Christ. » Mais qu'on le garde, puis qu'on en réalise l'importance puis le privilège qu'on a, puis comment est-ce qu'on doit pas prendre ça à la légère, parce que c'est le nom du Créateur qui est sur nous. Amen. Puis l'importance aussi de pas s'endurcir au point de rejeter ce nom-là, puis commencer à invoquer un autre nom pour être sauvé. Il y en a qui l'ont fait. Puis ça, ça sera le pire affaire qu'une personne peut faire, d'abandonner celui par lequel on est sauvé. Il dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, puis qu'ils l'abandonnent, puis qu'ils s'en vont vers un autre Dieu. Bien, c'est de prendre son nom en vain, puis de dire que c'est plus rien, puis qu'il s'en va ailleurs. Une autre chose que j'ai vraiment, ça m'a cliqué quand ça m'a fait comme j'allume une lumière, là. Quand j'ai lu le prochain verset dans Jean 12, 27, j'ai compris que la première mission, c'est sûr que Jésus est venu pour nous révéler son nom, ça je l'ai dit tantôt, mais il est venu aussi, premièrement, pour glorifier son nom. On va lire le verset, puis après ça on va comprendre comment Jésus trouve ça important que ça soit pas lui, pas pour lui, mais pour glorifier le nom de son Père, dans Jean 12, 27. Là, Jésus est en agonie, il est en train de prier, il était dans le jardin de Gethsémané, il était sur le bord d'aller se faire prendre puis de se faire emmener pour être crucifié. Puis ça nous dit, si on lit les autres passages, qu'il est en agonie, il est en prière, puis il luttait en prière parce que son corps lui résistait, ça lui faisait. C'était une agonie, c'était pas un party de plaisir d'aller mourir à la croix puis de se faire humilier par les gens de ce monde. Puis là, il dit, « Maintenant, mon âme est troublée. » Ça, c'est Jésus qui parle. « Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour ça que je suis venu jusqu'à cette heure. » Il dit, « Père, glorifie ton nom. » Et une voix vint du ciel qui dit, « Je l'ai glorifié, puis je le glorifierai encore. » Jésus, là, il est en agonie. Puis là, il y avait un combat avec lui-même. Puis ça nous dit, dans un autre passage, il priait tellement intensément qu'il était dans une angoisse. Puis il suait des grumeaux de sang, des motons de sang qui tombaient tellement que c'était intense, c'est son intercession. C'était pas, comme je disais tantôt, un party de plaisir d'être là. Son corps voulait pas y aller, puis on voit qu'il y a eu comme une intercession. Puis là, il était rendu à réaliser... Qu'est-ce que je vais dire? Délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cette heure-là que je suis ici. C'est pour accomplir ce qui avait été annoncé dans l'Ancien Testament. C'était le but pourquoi qu'il venait ici. Premièrement, là, il a dit, Père, glorifie ton nom. C'était le premier but pourquoi que Jésus était là, en train d'agoniser, puis d'être prêt à accepter sa croix. C'est dans le but de glorifier le nom de son Père. Pourquoi qu'il a changé d'idée, puis qu'il n'a pas dit, Seigneur, sors-moi de là, puis je m'en vais, puis que ça rentre avec le trouble. Parce que le Père avait déjà annoncé dans l'Ancien Testament que le Messie viendrait pour mourir sur la croix. Le Père s'est déjà prononcé pour dire qu'il va arriver telle chose. Fait que Jésus, il a accepté la prophétie qui a été faite, puis il a dit, c'est pour cette heure que je suis arrivé à ce moment-là, puis je dois accepter ce qui a à être fait, parce que c'est ma mission, c'est mon destin. Je dois accepter, puis Père, glorifie ton nom dans cela. Le Dieu, le Père, il a dit, je l'ai glorifié à travers Jésus, puis je le glorifierai encore, parce que Dieu montre encore des œuvres extraordinaires aujourd'hui qu'on y rend la gloire pour ces choses. À cause que Jésus a accepté de glorifier le Père, maintenant, le nom de Yeshua, Jésus, est maintenant élevé dans les cieux comme Dieu. On voit ça dans Philippiens 2:9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, puis lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Il n'y a pas un autre nom plus haut que le nom de Yeshua Yamashia, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Afin qu'au nom de Yeshua, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre. C'est quelque chose. Et sous la terre même. Ça, c'est toutes les morts. Et que toute langue confesse que Yeshua, Yamashia, est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est à la gloire de Dieu même lorsqu'on élève le nom de Yeshua. Chaque fois qu'un chrétien élève le nom de Jésus-Christ, t'es en train d'élever Dieu le Père. Tu glorifies Dieu le Père. Dieu le Père a dit, je l'ai glorifié, puis je glorifierai encore mon nom. Puis à chaque fois que quelqu'un aujourd'hui prend le nom de Jésus-Christ, puis qu'il loue le Seigneur Jésus-Christ, pour, comme que c'est écrit dans un autre verset, dans Hébreu, Dieu a demandé qu'on apprenne à respecter son nom et celui de son Fils. Ça nous dit dans Hébreu 1:6, lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Quand Jésus-Christ est introduit dans le monde, ça nous dit que tous les anges de Dieu l'adorent. C'est un ordre de Dieu le Père que tous les anges devaient adorer le Seigneur Jésus-Christ. Puis quand il est ressuscité, Dieu l'a souverainement élevé, puis il a donné le nom au-dessus de tout nom. Il l'avait déjà avant de partir. Mais il a accepté de tout laisser là pour venir pour un temps terrestre de 30 quelques années d'être dans la forme d'un simple homme. Mais après qu'il ait accepté d'obéir puis de faire la volonté de son Père puis glorifier son Père, là son Père l'a souverainement élevé, il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Il n'y a aucun nom plus haut que le nom de Jésus-Christ. C'est Yeshua. Puis tout le monde, ça nous dit qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou va fléchir dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ça se fait déjà dans les cieux. Les anges, tous les anges de Dieu l'adorent. Mais sur la terre, c'est pas tous les gens sur la terre qui l'adorent, juste ceux qui l'ont connu. Puis un jour, quand tout le monde va ressusciter, ils vont tous lui rendre la gloire pour accomplir ce verset-là. Dieu nous demande à ce qu'on respecte le nom de son Fils comme qu'on respecterait le nom de son Père. J'ai Dieu, le Père. Bon, mais il veut qu'on respecte son Fils. Puis Jésus a ramené une petite parabole dans Luc 20:13 qui nous dit de quelqu'un qui avait reçu un vignoble, puis il y avait des gens établis pour récolter le raisin, mais ça appartenait à un homme important. Puis là, c'est dans le temps de la récolte qu'il dit, je vais envoyer mon fils. Il avait envoyé des gens, puis pour aller chercher le produit de la récolte. Puis ces gens-là qui étaient responsables du vignoble, ils tuaient les serviteurs, un par derrière l'autre. Là, il dit, le maître de la vigne, dans Luc 20-13, il dit, « Que ferai-je? J'enverrai mon fils bien-aimé. Peut-être auront-ils pour lui du respect. » Mais quand les vignerons le virent, ils disent entre eux, « Voici l'héritier, tuons-le, afin que l'héritage soit à nous. » Là, on est en train de voir la pensée de l'esprit qui est en arrière de ceux qui auraient dû rendre des fruits, leur donner le fruit du travail de cette vigne-là. Ça appartenait à quelqu'un, ça revenait, comme en parenthèse, à Dieu. Parce que c'est Dieu qui est le créateur et le propriétaire. La vie de chacun, de toutes les êtres terrestres, devait servir à rendre à ce Dieu-là des fruits de leur vie. Puis que les gens, dans leur attitude, c'est « Je cherche à garder ce que Dieu m'a donné. Je vais vous prenons, tuons le Fils, là, débarrassons-nous de Jésus, puis on va pouvoir garder ce qu'on a, notre petite vie terrestre. » C'est exactement l'esprit qui anime les gens de ce monde, de quelqu'un qui aime mieux tuer le Fils, puis dire « Moi, je veux rien savoir, ma vie, je veux la vivre pour moi. Je veux profiter pleinement de ce que Dieu m'a donné, puis je le garde pour ma gloire personnelle. » Voici quelques façons dont les gens prennent son nom en vain, parce que là, j'ai essayé de vous expliquer comment est-ce que le nom de Dieu, c'est important, puis comment est-ce qu'il est grand, puis comment est-ce qu'il devrait être célébré, loué, puis qu'on devrait prendre ça avec respect, puis qu'on devrait se responsabiliser sur la manière qu'on vit pour pouvoir refléter ce nom-là qu'on porte. Parce que le peuple juif le portait, puis ça leur a été enlevé. Puis maintenant, nous le portons, puis on a une manière de vivre. Mais si on veut accomplir le commandement de ne pas prendre son nom en vain, ça veut dire que ça peut arriver que des gens, qu'ils prennent le nom de Dieu, mais s'en servent de la mauvaise façon. Il y a des exemples comme ça dans la parole de Dieu qui vont nous aider à comprendre ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faudra faire. Dieu, il savait qu'on le déshonorerait, son nom. Dieu, il savait, puis il l'a même prophétisé dans des écrits de la parole de Dieu, qu'on déshonorerait son nom au lieu de l'élever et de le glorifier. Puis Dieu, il endure avec patience jusqu'au jour du jugement les gens qui déshonorent son nom ou le blasphèment. Dans Apocalypse 13, 5, ça nous parle d'un personnage, mais ce personnage-là, moi, j'en vais le prendre pour comprendre quel est l'esprit qui est en arrière de ce personnage-là. Un personnage qui s'appelle l'Antéchrist, qui va venir avant qui est contre le Christ, puis qui va arriver avant le retour du Christ, un personnage qui va régner sur toute la terre. L'esprit qui va animer ce personnage-là, je dois vous dire qu'il n'y a pas juste lui qui est comme ça. Même si dans ce passage-là, ça s'adresse que ce personnage-là va être comme ça, l'esprit qui est en arrière de ce personnage-là, il agit déjà dans l'ensemble de ceux qui vivent sur la planète qui n'ont pas tourné leur vie pour glorifier Dieu le Père. Dans Apocalypse 13, 5, ça nous dit à ce personnage-là, « Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. » Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, ça c'est son habitation, le ciel, et ceux qui y habitent. Fait que tout ce qui appartient à Dieu, c'est saint. Mais ce personnage-là, de sa bouche, ça va être de l'arrogance, des blasphèmes, pour blasphémer Dieu, blasphémer son nom, puis son lieu de résidence, puis tous ceux qui y habitent. Ceux qui y habitent, c'est les saints. Qui ça, les saints? C'est ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. On est peut-être assis présentement dans des chaises ici, Mais la Bible nous dit qu'on est aussi, quand tu es sauvé, tu es aussi assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous sommes les habitants du ciel. Son arrogance, puis sa méchanceté, puis ses blasphèmes vont être envers Dieu, son lieu de résidence et tous les saints qui marchent en communion avec Dieu. Le mot blasphème, qui est écrit là, en grec, ça veut dire blasphème, blasphémer, injurier, injure, là, calomnier, blâmer, médire, outrager. Quand on dit pas blasphémer contre le Saint-Esprit, ou c'est un outrage au Saint-Esprit, c'est la même chose. C'est des paroles méchantes, des paroles injurieuses, manque de respect pour son nom. Ça veut dire qu'à chaque fois que ce personnage-là rouvrait sa bouche, c'était pour de parler de façon à manquer de respect à ce Dieu-là qui est saint. Prendre son nom en vain, c'est de prendre le nom de Dieu qui n'est pas dans le but de le glorifier, c'est dans le but de le salir, de l'injurier, de le rabaisser, d'y manquer d'honneur. Quand une personne passe en cours ici au Canada, mais n'importe quel cours dans le monde, tu es devant le juge, oui, monsieur le juge, non, monsieur le juge, puis c'est le respect. Puis si tu dis des affaires que c'est déplacé, c'est un outrage au tribunal. Ce Dieu-là qu'on sert, c'est le créateur de l'univers. Il n'y a aucun humain sur la terre qui a le droit de dire quoi que ce soit de négatif contre ce Dieu-là. La minute que tu prends son nom puis tu dis quoi de négatif, tu es d'aller en contraire avec le commandement qui dit de pas le prendre en vain. La seule façon qu'on a le droit de prendre son nom, c'est de le prendre dans le but de le glorifier, de l'élever, de lui chanter des chants, de le bénir, puis de le célébrer. Il est le Créateur. Nous sommes des créatures. Qui nous sommes pour aller oser dire quelque chose à ce Dieu-là? C'est un manque de crainte de Dieu. C'est un manque de respect. Imaginez que les gens du monde manquent de respect, puis ils prennent le nom de Dieu dans leur phrase, puis ils rajoutent des maudits dans leur phrase devant le nom de Dieu. Puis là, ils maudissent Dieu dans leur phrase, comme si rien n'était. Ils prennent le nom de Dieu comme si c'était chaise. Un nom d'un animal ou d'un nom d'une bouteille. Ça, c'est des choses qui est rien. Tu peux le prendre, ça, puis dire, c'est une bouteille. Ah oui, c'est une bouteille. Mais Dieu, tu peux pas y dire que des mots gras, puis de rajouter son nom, ça, c'est des blasphèmes. C'est un outrage à ce Dieu-là. Puis Dieu, dans le commandement, il dit, « Il laissera point impuni celui qui prend son nom en vain. » Là, il nous le dit qu'il supporte patiemment ce personnage-là qui va outrager son nom. Puis moi, comme j'ai dit au début, l'ensemble de l'humanité est animé du même esprit de mépris, puis de rejet, puis de salir son nom. Imaginez-vous quand un chrétien, quelqu'un qui a donné sa vie au Seigneur, qui veut marcher dans la sainteté, qui veut glorifier ce nom-là, puis qu'on aura encore ces choses-là dans notre bouche, de prendre son nom en vain, dans notre langage, puis de ce que le monde appelle communément sacré. T'as sacré, non? Ah ben, il y a les mots catholiques, parce que les mots catholiques, on dit des mots sacrés. Mais par respect à la religion catholique, on les dira pas. Tu veux l'amener au Seigneur, puis tu sacres dans ta phrase, puis là, tu es en train de dire les sacs, que pour lui, c'est sacré, ces mots-là. On devrait pas prendre ça. Mais qu'est-ce qu'il y en est du nom de Dieu qu'on prendrait en vain, puis qu'on les mettrait dans nos phrases pour faire des verbes avec ça, puis faire des... C'est un manque de respect total. Puis s'il y a des gens qui sont pris avec ça, il faut demander d'être délivré de cela, parce que ça déshonore Dieu. C'est un péché. Il y en a qui prennent son nom en vain pour jurer. Jésus le dit dans Matthieu 5, 34, « Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu. » Puis il y en a qui disent, « Je te le jure, c'est la tête de Dieu. » J'ai déjà entendu ça. Mais Jésus ne veut pas, c'est de prendre son nom en vain. Tu ne peux pas rendre blanc ou noir un seul de tes cheveux, que ça nous dit dans ce verset-là. Il dit que votre parole soit oui, oui, non, non. Si tu dis « je le jure », puis si tu rajoutes à la tête de Dieu, tu es en train de prendre son nom en vain. Il dit qu'on ajoute vient du malin. Faut pas prendre ces mots-là. Il y a d'autres personnes qui vont prendre son nom d'une manière méprisable en offrant un culte avec mépris et sans sérieux. Ça, il donne un exemple dans l'Ancien Testament, comment est-ce qu'il y avait des gens qui arrivaient à offrir en sacrifice à Dieu. Ils prenaient une bête chétive ou une bête malade, infirme, puis ils allaient l'offrir à Dieu. C'est une insulte à Dieu de prendre son nom à la légère puis de penser que c'est pas grave, de rendre un culte à Dieu d'une manière comme si tu lui donnes tes restants puis t'as aucune crainte de Dieu pour aucun. Dieu, quand il nous parle de cela, dans Malachie 1,7, ça nous dit « Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites en quoi t'avons-nous profané? » Il dit « C'est en disant la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur, te recevra-t-il bien, te fera-t-il bon accueil, dit l'Éternel des armées. » Les gens qui arrivaient tout croche, pas préparés, puis amenaient une bête qui était malade au lieu d'y offrir ce qu'il y avait de meilleur dans leur troupeau, puis ils offraient un culte à Dieu de restant. Mais Dieu, il regarde nos cultes qu'on lui offre, notre cœur est-tu sincère dans notre culte quand on l'offre à Dieu? On le fait-tu? Wow, je suis encore obligé d'aller à l'église, je vais aller chanter des chants, ou je vais aller prier, puis là, je vais aller être obligé d'entendre la parole. Puis c'est tout comme c'est un problème de servir Dieu, puis je vais y aller, là, mais ça, je reste pas jusqu'à la fin, ou je vais arriver en retard, ou je reste pas jusqu'à la fin. C'est pas important pour moi. C'est comme vouloir servir Dieu d'une manière non importante. Comme s'il n'y a pas de sérieux dans cela. Comme si ce Dieu-là est prêt à accepter n'importe quel désordre. Il dit, ta bête chétive, offre la don à ton roi pour voir s'il va t'accepter, lui, puis il va trouver que tu as bien fait, puis il va-tu te recevoir avec ce présent-là? Pas du tout. Pourquoi qu'on offrirait des restants à ce Dieu-là? Offrir un culte tout croche, c'est d'offrir un culte à Dieu en vain. Dieu dit dans ce même passage-là, au verset 11, il dit « Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations, et en tout lieu on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom, et l'on présente des offrandes pures, car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. » Quand on s'approche pour venir célébrer le Seigneur, on s'en vient dans son nom pour offrir un culte à son nom. On devra offrir ce qu'il y a de meilleur dans notre manière d'être pour pouvoir le faire dignement dans le rôle qu'on est supposé de le faire. On est supposé de le célébrer, faut le célébrer de tout notre cœur. Pas juste de toute notre bouche, avec des paroles fortes, mais que le cœur n'est pas là. Si le cœur n'est pas là, tu as fait un culte à l'envers.
Juste une petite parenthèse. Quand on reçoit quelqu'un à la maison, on se dépêche de faire le ménage et on offre le meilleur.
Le meilleur.
Tout ce qu'il y a de mieux, c'est un frère, une sœur. Pourquoi ne pas exact. Offrir tout ce qu'il y a de mieux encore,
oui.
Plus à Dieu?
Oui, oui. Là, Jésus, il parle justement comme si on prendrait son nom en vain lorsque notre cœur n'est pas là dans la louange. Dans Marc 7,6, il dit, Jésus leur répondit, il parle à des gens, là, « Hypocrite! Isaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Il dit, c'est en vain qu'il m'honore. » Prendre son nom en vain. C'est en vain qu'il m'offre ce culte-là. Ça sert à rien, ils prennent mon nom en vain, leur cœur n'est pas là. Ils chantent des chants, ils disent, « M'honore des lèvres, ils chantent le chant. » Mais leur esprit, leur cœur, n'est pas connecté dans ces paroles-là. Fait qu'ils chantent pas à Dieu, puis Dieu dit que tu es en train de prendre son nom en vain, puis ce culte-là que tu es en train de faire, c'est en vain que tu l'honores. C'est une insulte, autrement dit. C'est quelque chose qui sert à rien, c'est comme si tu ne l'aurais pas fait. Tant qu'à louer Dieu, frères et sœurs, on peut avoir des distractions parce que des fois, on a une vie agitée, il y a des problèmes ou des attaques de l'ennemi. Mais quand on rentre ici, là, faut se concentrer, faut chasser les esprits de distraction, puis il faut vraiment se connecter sur Dieu. Puis si on n'y arrive pas là dans le temps qu'on est ici, mais on devra se préparer chez nous pour être déjà disposé à ce que quand on va arriver ici, puis qu'on soit déjà connecté, puis qu'on pendant les chants qu'on reste connecté, puis on offre à Dieu un culte de louange en esprit et en vérité. C'est de tels adorateurs que le Père demande. Il y a un autre point, une autre manière que le monde prenne son nom en vain. Dans le texte que j'ai sorti ça, ça nous dit que dans les anciennes religions orientales, puis ça existe encore aujourd'hui, la magie, c'est une pratique courante. Ça implique l'utilisation d'un nom d'un dieu, puis que l'on croyait pour contrôler la puissance du dieu dans certains types d'activités, tu viens à un moment donné à essayer de contrôler ce nom-là dans le but d'arriver à tes fins de faire ce que toi tu veux faire. La magie, c'est ça, contrairement au christianisme. La magie, tu penses que si tu confesses telle et telle parole, puis ces paroles-là ont souvent un rapport avec un dieu à quelque part, tu penses que tu reçois le pouvoir de contrôler les circonstances, les éléments même, l'environnement, pour manipuler ça à ta guise pour arriver à tes fins. C'est ça la magie. Contrairement au christianisme, c'est le renoncement à toi-même, toutefois pas ma volonté, mais la tienne. Être là pour faire la volonté de Dieu, se soumettre à ce que Dieu nous demande, puis de l'accepter, puis de prononcer les choses comme si c'est Dieu qui va le faire. Fait que toi, t'as rien, c'est pas ta volonté que tu cherches, c'est de la gloire de Dieu que tu recherches. Ça, c'est le christianisme. Fait qu'il y a des gens qui prennent le nom de Dieu dans le but d'arriver à leur fin, sans avoir consulté Dieu sur quelque chose. On prend son nom et on l'invoque sur une chose qui est selon notre désir, selon nos passions, nos convoitises. C'est pour ça que Jacques il dit, vous demandez et vous ne possédez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos convoitises. Il dit, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est une inimitié contre Dieu? Puis quand on décide de dire que je vais aller dans telle ville, je vais faire ci, je vais faire ça, c'est en cause, si toi tu penses que tu es encore en contrôle de ta vie, tu devrais dire, si Dieu le veut, je ferai ceci ou je ferai cela. Donc, c'est plus notre volonté, c'est la volonté de Dieu. Là, si on prend son nom pour essayer de dire, pour l'épanouissement de notre moi, parce que c'est ça qui est rendu dans beaucoup de doctrines, pour arriver à nos fins, pour qu'on puisse s'épanouir. Dieu est là pour répondre à tous tes besoins et à tes désirs, comme si c'est pour faire ta volonté. Dieu va se soumettre à tous tes caprices, puis il va t'ouvrir le chemin dans la convoitise de tout ce que tu as qui te passe par la tête. C'est antéchrist, cette pensée-là. C'est pas de Dieu. C'est souvent la pensée de la prospérité. C'est vrai que Dieu veut qu'on prospère dans beaucoup de choses. Il y a un côté positif. Dieu veut qu'on avance. Mais à dire que tout le monde va devenir riche, puis on va tous être ici, puis on va tous faire ça, c'est faux. C'est pas le plan de Dieu. Ça le sera pas non plus. Puis Dieu, son plan, s'il veut qu'on accepte son plan. Dieu dit, j'ai préparé des œuvres afin que tu les pratiques. C'est ça, son plan que lui a pour ta vie. Ta destinée, c'est pas ce que toi tu veux, c'est ce que lui veut pour ta vie. Il faut apprendre à découvrir le plan de Dieu. Prendre le nom de Dieu en vain, c'est de penser qu'on arrive à toutes nos fins de nos convoitises. C'est de le prendre en vain, tu vas l'invoquer, puis il n'y a rien qui va arriver. J'achève. On le voit, cet exemple-là, là, que des gens qui ne l'avaient pas, ils n'étaient pas des vrais disciples, puis qui ont utilisé le nom de Dieu pour essayer de chasser des esprits dans une personne, puis ça n'a pas marché. Dans Actes 19, 13, il y a des exorcistes juifs ambulants qui exerçaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Eux autres l'ont pas, mais ils pensaient qu'en confessant le nom de ce Jésus-là, qui est le nom qui libère, qui guérit, qui délivre, ils pensaient d'arriver à leur fin, de leur chose. Ça marche pas. Il faut premièrement que tu sois en communion avec pour que tu puisses vivre ces expériences-là. Et quand le Saint-Esprit t'amène à faire cela, pas quand toi, ça te tente. Il faut que tu consultes Dieu pour lui demander d'ouvrir les portes, de te montrer qu'est-ce qui se passe, puis de donner le discernement, puis là, il va te faire prononcer les choses. Là, tu vas rentrer dans la délivrance. Il y a beaucoup de choses mal faites que ça marche pas parce qu'on les a faites à l'envers. Le dernier passage, une belle promesse à ceux qui garderont son nom avec respect. Dans Apocalypse 3, 8. Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Puis dans le verset 12 de ce même passage-là, il dit, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, puis n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Hallelujah! Et le nom de la ville de mon Dieu, de la Nouvelle Jérusalem, c'est ça que l'Antéchrist cherchait à blasphémer, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Jésus-Christ va avoir un nom nouveau, c'est le nom qui est au-dessus de tout nom, puis ce nom-là va être écrit sur ceux qui vont avoir la victoire. Comment allons-nous avoir cette victoire? Premièrement, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, c'est que tu connais le vrai Dieu. C'est qui le vrai Dieu? Dieu le Père et Jésus-Christ. Parce que sans le Père, sans Jésus-Christ, tu peux pas atteindre le Père. Faut que tu passes par Jésus, parce que Jésus, c'est la porte. Tu veux recevoir cette victoire, faut que tu passes par Jésus-Christ, tu le reconnaisses qu'est-ce qu'il est, puis tu le confesses que tu veux que son sacrifice te pardonne de tous tes péchés. Si tu reconnais que tu es pécheur, que tu es dans le péché, que tu as fait des péchés, ça t'empêche d'entrer au ciel. Faut que tu règles ça, cette chose-là, pour le péché. Comment ça va être réglé? Faut que tu crois que Jésus-Christ est mort sur la croix, qui a versé son sang, qui était le Messie envoyé par Dieu pour être le sacrifice qui pardonne tous tes péchés. Si tu y crois qu'il est mort pour toi, tu as juste à l'accepter comme ton sauveur, comme ton Seigneur. Tu demandes pardon, tu te repens. Parce que si tu t'essayes de recevoir un pardon, mais tu as l'intention de rester pareil comme avant, il n'y a rien qui va se passer. La nouvelle naissance, il faut que tu aies de la repentance. Ça veut dire qu'il faut que tu veuilles changer de vie. Quand on dit tel que tu es, ça veut pas dire rester de même. Ça veut dire faut que tu veuilles changer. Tel que tu es, ça veut dire essaye pas de changer avant de venir à Jésus, mais sois repentant. Quand tu es repentant, tu arrives à Jésus. Tu le regrettes que tu as fait, puis tu veux t'en sortir. Là, tu confesses de ta bouche, je crois que Jésus-Christ est mon sauveur, je l'accepte, puis je l'accepte comme mon Seigneur, puis je veux le suivre, puis maintenant, donne-moi ton Saint-Esprit. Là, ça dit que Dieu vient habiter en toi, puis tu vas être sauvé. Tu vas être un victorieux en autant que tu n'as pas renié son nom dans la suite, que tu ne l'abandonnes pas. Puis là, Dieu, mais qu'on arrive l'autre bord, il va écrire son nom sur nous, ça va être fait une fois par toutes, on sortira plus jamais de là. Je fais un appel pour ceux qui veulent accepter Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Ceux qui se disent, moi j'en ai assez de ma vie, je veux que ma vie change. Vous êtes devant Dieu présentement, c'est pas une religion que vous acceptez, c'est Jésus-Christ dans votre vie. Vous voulez recevoir Jésus? Venez ici, puis on va faire une prière avec vous. Puis à partir du moment que vous allez le faire, cette prière-là, ça nous dit que vous allez pardonner de vos péchés, puis le Saint-Esprit va rentrer en vous, puis tu vas être un victorieux. Je fais cet appel. Avancez-vous en avant. Clairement, s'il veut, il va nous faire un chant. Laissez pas passer cette occasion-là. Si vous ne l'avez pas fait, la paix avec Dieu, c'est le moment. C'est aujourd'hui le jour du salut. Si vous laissez passer ça, vous ne savez même pas vous êtes encore là ce soir. Puis là, vous allez peut-être avoir manqué l'occasion de votre vie. Il faut accepter Jésus-Christ. Puis on va prier avec vous pour que vous puissiez être sauvés. Alléluia. Gloire et louange à ton nom, Seigneur. Alléluia. Tu es grand, Seigneur, merveilleux et digne de nos louanges. Alléluia. Seigneur, je te remercie pour le temps qu'on a eu dans ta parole. Merci pour l'inspiration de ces versets-là. Que ta parole soit gravée dans notre cœur, qu'on marche dans la crainte d'offenser ton nom, de le prendre à la légère. Donne-nous de marcher d'une manière sérieuse, d'une manière authentique, puis d'une manière qui marche d'une manière digne de porter ton nom, Seigneur. Nous sommes incapables, mais toi, Seigneur, tu peux nous rendre plus que vainqueurs, Seigneur, à cause de ton esprit qui est en nous. Puis je te remercie de ce que tu veux faire à travers de nous pour qu'on propage ton nom dans cette nation. Que ton Saint-Esprit nous utilise pour sauver des âmes. Nous remettons nos vies entre tes mains, Seigneur, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen.